Nous sommes évidemment tous d'accord qu'il faut maintenant que les choses changent, mais il faut qu'elles changent non pas dans l'anarchie, mais dans un mouvement puissant, organisé, 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 organisé.
Vous êtes sur Alternante FM, voici Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Alternantaises et alternantais, je suis heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Nouvelle Donne, Vieille Rengaine. Pour ce 10e numéro, je vous parlerai de l'attrait bien particulier du Parti Socialiste pour le référendum, puis je vous emmènerai en Israël, où la situation politique devient de plus en plus tendue. Je vous parlerai ensuite d'un excellent livre de la sociologue Danielle Linhart intitulé « La comédie humaine du travail », publié par les éditions RS. Un livre que tout travailleur doit lire pour comprendre l'évolution du salariat depuis une bonne trentaine d'années. Après la traditionnelle revue de presse, je vous propose de retrouver notre feuilleton radiophonique sur le capitalisme et les luttes sociales, le sujet de ce très long épisode, marxisme et anarchisme. Dans le cadre de cet éditorial, j'aimerais vous dire quelques mots sur le dernier remaniement ministériel. Sous la Troisième République, histoire de se gausser de l'opportunisme politique du Parti radical, on comparait ses membres aux radis, rouges à l'extérieur, blancs à l'intérieur et toujours près de l'assiette au beurre. Rouges à l'extérieur parce que nos radicaux, laïcs fervents, prétendaient défendre le peuple travailleur. Blancs à l'intérieur parce que nos radicaux, en bons bourgeois modernistes, ne songeaient nullement à remettre en cause le système capitaliste. Toujours près de l'assiette au beurre parce qu'on pouvait toujours compter sur eux pour former des alliances électorales et intégrer des ministères. Les Verts sont les radicaux des temps contemporains. On peut compter sur eux pour donner la patte et se faire caresser l'encolure après s'être fait rosser. Tragique destin que celui de ce parti qui prétendait renouveler le jeu politique et qui n'a fait qu'en reproduire les aspects les plus grotesques, avec ses chamailleries entre pseudo-tendances qui ne sont souvent que de vraies coteries autour d'un leader charismatique ou qui pense l'être. Quand je dis vert, je songe évidemment à tous ceux qui se servent de l'écologie comme d'un strapontin pour faire carrière. Il y a dans toutes les formations politiques, y compris les plus radicales, je vous rassure, des militants honnêtes et désintéressés, d'autres qui ont leur nombril pour seul compagnon et son agrandissement pour seul horizon. Et curieusement, plus on monte dans la hiérarchie, plus on observe le même type de comportement. En Grande-Bretagne, le nouveau chef du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, un socialiste à l'ancienne, a pour principal adversaire l'appareil du parti, tous ceux qui ont fait carrière grâce à lui et qui craignent pour leur poste un virage à gauche de l'organisation. Chez les Verts, c'est pareil. Rompre avec le Parti socialiste, c'est perdre des postes et des possibilités de faire carrière. Alors la tentation est forte de s'asseoir sur ses idées, il en est de même pour ce qui reste du Parti communiste. Bon, évidemment, l'opportunisme en politique ne se présente jamais comme tel. Emmanuel Cosse a ainsi choisi d'entrer dans un gouvernement libéral pour y défendre des valeurs de gauche. Ce choix repose sur une opportunité à se saisir de leviers d'action qui, face aux urgences sociales et environnementales, me paraît prévaloir sur la somme des désaccords. Alors que la France est en grande difficulté, je pense qu'elle a plus que jamais besoin d'écologie, notamment dans les institutions et au gouvernement. Face à la montée du FN, blablabla, blablabla, blablabla. C'est donc au nom de l'urgence sociale et environnementale qu'Emmanuel Cosse se rallie à un gouvernement qui n'a de cesse d'être dur avec les gueux et friendly avec le business. Un gouvernement nucléocrate qui rêve toujours de doter l'Ouest d'un aéroport éco-responsable avec parking onéreux et super duty free. Et c'est évidemment au nom de l'antifascisme qu'elle se rallie à celles et ceux qui en ont fait le lit avec leurs politiques économiques et sociales d'essence libérale. Comprend qui pourra. Elle n'embarquera pas seule sur la barque Hollando-Valso-Macronienne, puisqu'elle y retrouvera Barbara Pompili et surtout, l'inénarrable Jean-Vincent Placé. Oh, il faut que François Hollande soit tombé bien bas, ou alors qu'il ait retrouvé son légendaire sens de l'humour pour confier un poste à ce sénateur vert, incarnation parfaite de l'opportunisme en politique, et qui, je l'ai découvert en préparant cette émission, a débuté sa carrière chez les radicaux de gauche. Comme quoi, les traditions...
Operai, operaie, vi parlo a nome dei vostri compagni studenti. Sono le 8 del mattino.
Nouvelle donne vieille rengaine, l'actualité.
Sarà già buio per voi la luce del sole.
Avant, pour enterrer un problème, disait cette vieille baderne de Georges Clemenceau, on créait une commission. Aujourd'hui, du côté de l'Élysée et de Matignon, on promet des votations. Myriam El Khomri, ministre du Travail qui reste, ne manque pas d'humour. Dans un entretien récent avec des journalistes d'Alternative Économique, elle déclare ainsi qu'elle n'oppose pas performance sociale et performance économique. J'ai trouvé cela drôle, venant d'une supplétive de l'attelage Valls Macron qui n'a de cesse de fragiliser la condition salariale au nom de la compétitivité. C'est le monde capitaliste réel qui se charge d'opposer performance sociale et performance économique en organisant la surexploitation des travailleurs et l'omnipotence des actionnaires. Dans ce même entretien, elle parle d'un nouveau truc pour stimuler le dialogue social. Les référendums d'entreprise dans l'intérêt de l'emploi. Je vais faire simple. Si l'entreprise connaît des difficultés sévères et conjoncturelles, sa direction peut ouvrir une négociation avec les syndicats afin de parvenir à un accord ou, en contrepartie de son engagement à maintenir les emplois pendant la durée de validité de l'accord, les salariés accepteront une remise en question, une remise en cause de leur temps de travail, de leur rémunération et de leur travail lui-même. Comme le gouvernement craint que les syndicats majoritaires ne jouent pas le jeu, il dote les syndicats minoritaires de la possibilité d'organiser un référendum dont les conclusions s'imposeraient y compris aux syndicats majoritaires. Quant aux salariés qui refuseraient le dit accord, ils seraient tout simplement licenciés. C'est ce qu'elle appelle « favoriser une réelle culture du dialogue social dans l'entreprise » car voyez-vous, nous dit-elle, si on veut réellement renforcer le pouvoir des partenaires sociaux, il ne faut pas les enfermer dans un cadre où tout est dicté par la loi. Il faut au contraire leur laisser de la souplesse. Souplesse. Un code du travail trop lourd casse les reins. Un code du travail allégé permet à la colonne vertébrale de s'incliner à la hauteur voulue par le rapport de force. Mais que peut signifier la souplesse dans un pays où la peur du chômage est la première des angoisses des habitants ? Les salariés du secteur privé sont tenus par la trouille, par le « c'est ça » ou la délocalisation. Myriam El Khomri le sait bien, mais son socialisme business friendly n'en a cure. Référendum ? François Hollande a sorti ça de son chapeau pour régler la question de ce foutu aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Lors de la dernière émission, je vous disais que pour le pouvoir, la question essentielle était « comment sortir de ce conflit la tête haute ?» François Hollande a trouvé la solution, faire voter le peuple, enfin une partie, du moins on l'imagine. Parce qu'il fut fort lapidaire le premier d'entre nous. Référendum local qui dit mais ça veut dire quoi ? Municipal, cantonal, départemental, régional, bi-régional ? Personne ne le sait vraiment, sinon que la parole sera donnée normalement au peuple citoyen avant octobre. Le peuple citoyen devra donc choisir entre un aéroport qui va créer de l'emploi et de la richesse et la défense de quelques tritons crétés batifolant joyeux dans une zone humide soutenue par des ultra-violents pas de chez nous. Ah, le combat risque d'être rude. Récemment, je vous ai parlé de la révolution de 1848 qui a vu s'affronter deux camps, deux conceptions de la République. Il y avait ceux qui considéraient que la République était un régime et ceux qui considéraient qu'elle était un projet révolutionnaire. Les premiers célébraient le pouvoir des urnes et l'électeur roi. Les seconds célébraient l'action de classe et le travailleur citoyen. Ce sont dans les urnes que meurent les émancipations. Émile Pouget, le vieux syndicaliste révolutionnaire, l'avait bien compris. Si le mécanisme démocratique était pratiqué par les organisations ouvrières, disait-il, le non-vouloir de la majorité inconsciente et non syndiquée paralyserait toute action. Il y a pour la minorité consciente obligation d'agir sans tenir compte de la masse réfractaire. Et ce, sous peine d'être forcé à plier les chines, tout comme les inconscients. Les conquêtes sociales de 1936 ne doivent rien aux urnes, mais tout à l'occupation illégale des usines, autrement dit à l'insubordination ouvrière. Ah, mais c'est vrai que pour un socialiste business friendly, 1936 et ses ouvriers en bleu de chauffe, c'est de l'histoire ancienne.
On parle beaucoup des quelques dizaines d'agités.
Nouvelle donne vieille rengaine.
Qui ne travaillent pas. Et
l'actualité.
Qui empêche les autres de travailler.
La paranoïa est une pathologie nationale en Israël. Celui qui pense et écrit ainsi est Ran Edelist, un journaliste d'un des principaux quotidiens israéliens, Ma'ariv, journal de centre-droit, autrement dire limite gauchiste, au regard de la politique et de la composition du gouvernement Netanyahou. Ben, je plaisante bien sûr, dans les colonnes de Ma'ariv, le 25 novembre dernier par exemple, le journaliste Nadav Hatzni établissait un parallèle entre les attaques au couteau perpétrées par les Palestiniens sur des Juifs au pogrom de Chisinau en 1903. Comparant même les Palestiniens aux nazis et appelant le pouvoir à frapper plus fort ceux qui y attaquent et ceux qui les soutiennent. « Nous devons montrer à tout assassin potentiel, ainsi qu'à toutes celles et à tous ceux qui le soutiennent en chantant ses louanges après sa mort, qu'il se prépare à vivre une vie insoutenable, faite de malheur, de destruction et de souffrance. » Nadav Hatzni n'a semble-t-il pas encore compris que malheur, destruction et souffrance constituent déjà le quotidien de la plupart des Palestiniens. La Nakba, la catastrophe de 1948, l'humiliation quotidienne, la marginalisation sociale et politique, les checkpoints, la multiplication des colonies juives, l'absence totale d'espoir et d'avenir, voilà ce qui arme la main de ces Palestiniens suicidaires, bien plus que le seul antisémitisme bien réel dans la société palestinienne, avancé par Nadav Hatzni. Son confrère, Ran Edelist, lui se désole de la dérive droitière, le mot est faible, du gouvernement Netanyahou. Que penser de Naftali Bennett, ministre de l'Éducation, qui propose ni plus ni moins une loi faisant obligation aux artistes israéliens de prêter allégeance à l'État d'Israël et à s'engager par écrit à présenter leur création, y compris dans les colonies juives. Qui annonce la création d'un prix de l'art juif. Qui entend revoir de fond en comble les contenus pédagogiques pour leur donner une teneur plus radicale à droite. Il reviendra bientôt à la Cour suprême, nous dira Nedelist, de juger si les nouveaux contenus pédagogiques ultranationalistes relèvent de l'enseignement ou du lavage de cerveau. Dans l'œil du viseur de ce gouvernement d'extrême droite, les ONG de défense des droits de l'homme, trop pro-palestiniennes, agents de l'étranger selon la ministre de la Justice, en tout cas à surveiller de près si leur financement dépend de façon forte de bailleurs de fonds étrangers. Comme le souligne Rachel Lead du journal Yediot Aharonot, Israël est en train de prendre pour modèle la Russie de Poutine, un régime ayant des apparences formelles de la démocratie, mais exsangue de tout ce qui irrigue une démocratie vivante. Désormais, écrit-elle, on licencie des enseignants sur la base de leurs opinions supposées. On interdit des livres jugés dangereux pour l'identité nationale, comme un roman évoquant une histoire d'amour entre un arabe et une juive. On réécrit les manuels d'histoire ou d'éducation civique. On traque l'agent de l'étranger ou le traître. On exclut des députés démocratiquement élus. On attise la haine contre les gauchistes ou les arabes. Si nous ne parvenons pas à enrayer cette spirale, nous nous réveillerons bientôt dans une démocratie à la Poutine ou à la Erdogan. Peut-être même est-il déjà trop tard. Rachel Lead est pessimiste, et elle a bien des raisons de l'être. Jamais ce qu'on appelle le parti des colons où racisme, nationalisme et fondamentalisme religieux se donnent la main n'était parvenu à ce point à pénétrer l'exécutif. Jamais le camp de la peine a été dans un tel état de délabrement. Il n'existe plus en tant que force politique centrale depuis que le parti travailliste a fait sa mue sous Ehud Barak, rejoignant le camp des Faucons. Il subsiste ça et là dans des structures militantes, judéo-arabes, qui mettent les questions sociales au premier plan de leurs préoccupations. Certains rêvent de voir émerger une coalition des minorités rassemblant les Palestiniens d'Israël, les Juifs éthiopiens yéménites victimes du racisme, les Juifs russes désargentés qu'on envoie peupler les colonies de Cisjordanie et Jérusalem-Est parce qu'en Israël, les loyers sont prohibitifs. Sans oublier les séfarades, Juifs orientaux qui longtemps furent méprisés par l'élite ashkénaze qui dominait l'État et qui sont devenus la clientèle électorale privilégiée de la droite et de l'extrême droite. Ambitieux programme que celui de bâtir à la base des résistances, de faire de la question sociale la question primordiale, essentielle, celle que masquent trop souvent les diatribes nationalistes et religieuses, ici comme ailleurs. We'll be right back. Nouvelle donne, vieille rengaine.
Quando ti ricoverano.
Les notes de lecture.
Porta le armi.
De la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale. Tel est le sous-titre que la sociologue Danielle Linhart a donné à son dernier opus, La comédie humaine du travail, publié par les éditions RS à la fin de l'année 2015. Ce sous-titre peut faire peur à l'honnête salarié désireux de mettre des mots sur des mots, autrement dit, d'analyser ce qui se joue au quotidien là où il s'efforce de gagner son pain. L'honnête salarié aurait tort de rebrousser chemin, pensant que ce genre d'ouvrage doit être écrit dans un étrange sabir, dans un jargon d'intellectuel pour intellectuel. C'est là que réside la grande force de Danielle Linhart, sa capacité à rendre accessibles ses idées et sa vision du monde du travail. Depuis près de 40 ans, Danielle Linhart ausculte le monde du travail. Depuis 40 ans, elle observe sa dégradation, autrement dit, son adaptation au monde capitaliste tel qu'il va. Au 19e siècle et au 20e siècle, le patronat et ses affidés se sont efforcés de domestiquer le peuple salarié, c'est-à-dire de le discipliner, lui apprendre les horaires, les règles, les normes, la soumission à la machine et aux procédures, capter ses savoir-faire, les transférer à la machine, le réduire à l'état de rouage. Ils n'y sont jamais parvenus totalement, et tout spécialiste du monde du travail le sait. Les entreprises ne fonctionnent que parce que les salariés s'affranchissent régulièrement des normes et procédures. Le refus de l'aliénation salariale, les luttes sociales, cette guerre des classes ouverte ou larvée, tout cela a poussé le patronat à innover, à proposer à ceux qu'elle pressure une nouvelle ambition. Faire sienne les valeurs de l'entreprise, les défendre au dehors, être mobile, flexible, adaptable, se fondre dans le collectif et y prendre du plaisir. Ces managers modernes sont devenus des entrepreneurs, entre les mains desquels nous ne sommes qu'une pâte à modeler et remodeler au gré de l'évolution des modèles productifs. Modeler veut dire détruire les métiers pour ne laisser aux travailleurs qu'un ensemble de compétences mises à la disposition du patron. Danielle Linhart cite un cadre de France Télécom disant que son rôle est de produire de l'amnésie. Phrase terrible et si vraie. Danielle Linhart rappelle qu'à la précarisation objective, celle vécue par les travailleurs faiblement insérés dans le monde salarié, CDD, intérimaire, s'ajoute une précarisation subjective, conséquence d'une organisation du travail centrée sur la déstabilisation et le mouvement perpétuel. Les jeunes, nous dit-elle, se piquent parfois au jeu, préférant ce mouvement perpétuel, le stress, les challenges, la fluidité des rapports d'autorité à une organisation plus traditionnelle où les camps sont davantage marqués, où chacun défend son précaré, son identité professionnelle. Mais cela dure peu, parce que le management moderne fonctionne à la perversion. Il nous sommes d'être coopératifs et collectifs tout en faisant en sorte que chacun soit le concurrent de l'autre. Logique de coopération et logique de compétition sont censées se tenir par la main. À ce jeu-là, on se brûle, on s'épuise et on perd l'estime de soi. L'histoire du travail salarié, nous dit Danielle Linhart, est celle d'une déprofessionnalisation systématique des travailleurs par un management soucieux avant tout de les contrôler et de maîtriser leur travail. Lire ce livre est un bon antidote à l'heure où la doxa néolibérale entend nous faire prendre les vessies de l'exploitation pour les lanternes de l'émancipation individuelle. Je ne puis que vous conseiller la lecture de ce très bon livre, Danielle Linhart, La comédie humaine du travail, de la déshumanisation taylorienne à la surhumanisation managériale. C'est publié par RS en 2015.
Nous sommes derrière les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Des voitures se rembrouillent. Aïe la vache.
Nouvelle donne, vieille rengaine, la revue de presse.
Pousse-toi. Bon, la main, il y a deux voitures, trois, quatre voitures qui sont retournées.
Outre la lecture hebdomadaire de l'excellent courrier international qui regorge d'informations sur ce qui se passe au-delà de l'Hexagone et celle quotidienne du journal en ligne Mediapart, j'ai reçu, lu ou parcouru un certain nombre de journaux et de revues ces dernières semaines. Lors de la dernière émission, j'ai évoqué l'excellent trimestriel Moyen-Orient et son numéro 29 consacré à l'Arabie Saoudite. Je vous en conseille vivement la lecture, outre des contributions sur la nouvelle diplomatie du roi Salman, marquée par la volonté affichée de s'affirmer comme une puissance régionale majeure, outre les tensions entre les différentes régions formant le pays, les clivages confessionnels, les relations parfois complexes unissant la monarchie et les oulémas, garants de l'orthodoxie wahhabite. Le journal s'intéresse également aux problèmes économiques, comme le poids de l'or noir ou les dangers que fait courir à l'écologie l'agrobusiness saoudien et ses fermes géantissimes, puisque c'est au cœur du pays, à Karj, que l'on trouve la plus grande ferme laitière du monde avec 35 000 vaches laitières. Bon, il faut dire que la monarchie des Saouds n'est pas avare de ses deniers pour soutenir et développer une agriculture intensive qui engloutit à elle seule 90% des ressources en eau. Cette course au gigantisme est si dangereuse qu'elle fait dire au chercheur Bernard Fay que le temps est peut-être venu d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et des êtres humains. Dans son numéro 354 de février, Alternative économique consacre sa une au plan pour l'emploi du gouvernement et nous propose une interview de Myrial M. Khomri, la ministre du Travail. Le mensuel économique de gauche nous offre un dossier central sur la croissance chinoise en berne, évoque Bernie Sanders, le rival socialiste de Hillary Clinton au sein du Parti démocrate, et il évoque également le plan de réforme des retraites en Grèce ou encore la place des énergies renouvelables dans le modèle économique allemand. Une économie écologique est-elle possible? Eh bien, c'est la question que pose le trimestriel L'économie politique à une brochette d'économistes dans son numéro 69 qui vient tout juste de paraître. Oh, question judicieuse, alors que certains essaient de faire entrer la nature dans le système des prix et la logique marchande, au motif qu'on ne défend bien que ce qui a de la valeur.
contro sto muro. Un muro. Il muro. Giù. Giù.
Capitalisme, individu et société. Feuilleton radiophonique sur l'histoire du mouvement ouvrier. Qu'est-ce que le marxisme ? Vaste question et réponse difficile, car il y a peut-être autant de marxisme que de lecteurs de Marx, sans oublier que le marxisme est une invention de Friedrich Engels, postérieure à la mort de celui qu'on appelait le noir gaillard de Trèves. Mais en vous disant cela, je prends déjà parti. Qu'est-ce que le marxisme donc ? Une philosophie, une science, la science, une éthique. Et quand nous parlons de Marx, qu'évoquons-nous ? Le Marx de la maturité, celui du Capital, sorti en 1867, ou bien le Marx jeune des années 1840 ? Un Marx moins centré sur l'économie, plus philosophe, parlant davantage d'aliénation que d'exploitation. Engels raconte un jour que Marx déclara, voyant l'usage que certains faisaient de ses théories, « Tout ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas marxiste. » Boutade ? Oui pour les uns, non pour les autres. Et le débat n'est pas anodin, car il a profondément marqué toute l'histoire du mouvement ouvrier. Pourquoi ? Parce qu'après la mort de Marx, Engels et d'autres socialistes, notamment allemands, ont imposé une lecture des œuvres de Marx, excommuniant de ce fait celles et ceux qui osaient penser différemment ou suggéraient même que le grand penseur s'était peut-être trompé. Et le phénomène ne fit que s'accentuer après la révolution russe de 1917. Au lieu de faire de la pensée de Marx une pensée vivante ou un terreau fertile pour penser le monde, certains en ont fait une religion et s'en sont fait les grands prêtres. Ainsi Marx aurait prédit que le capitalisme courait fatalement, inévitablement à sa perte, et que tout aussi fatalement et inévitablement le socialisme lui succéderait. Alors ils décrétèrent qu'il ne servait à rien de s'agiter en tous sens, qu'il fallait attendre patiemment son heure, et qu'on pouvait très bien tenir des discours enflammés révolutionnaires pour galvaniser les troupes d'un côté, et avoir une pratique très modérée de l'autre. D'autres répondirent que si Marx insistait beaucoup sur les déterminismes économiques, politiques et sociaux, il ne soutenait pas pour autant que les masses ne pouvaient ou ne devaient jouer aucun rôle dans l'évolution des choses, bien au contraire. Comme le souligna Marx lui-même, les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas de leur propre mouvement ni dans des conditions choisies par eux seuls, mais bien dans les conditions qu'ils trouvent directement et qui leur sont données et transmises. La tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants. Qu'est-ce que le marxisme ? Ou quelles sont les idées essentielles développées par le philosophe et militant allemand ? C'est une philosophie qui nous demande de nous intéresser à l'homme concret, réel, immergé dans la société et traversé par elle. Car l'homme est un être social, façonné par la société. Et pour Marx, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est leur existence sociale qui détermine leur conscience. C'est une philosophie qui nous rappelle que la critique de la religion est à la base de toute critique du monde tel qu'il est, parce qu'elle est l'opium du peuple. Il écrit « La suppression de la religion comme bonheur illusoire du peuple est une exigence de son bonheur réel. » C'est une théorie de l'histoire que l'on appelle le matérialisme historique. On ne peut comprendre l'évolution des sociétés humaines sans s'intéresser à la façon dont les hommes produisent leurs moyens d'existence, car ceux-ci déterminent la façon dont ils se gouvernent. À chaque mode de production, façon de produire et d'échanger, correspond donc un mode de gouvernement. Dans ce schéma, c'est la structure, l'économie, qui détermine la forme de la superstructure, l'État. Ce qu'il résumera par une formule choc qui ouvre le manifeste du Parti communiste publié en 1847, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, baron et serf, maître de jurand et compagnons, en un mot oppresseur et opprimé, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours, soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. Dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une organisation complète de la société en classes distinctes, une échelle graduée de conditions sociales. Dans la Rome antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves. Au Moyen Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres de corporations, des compagnons, des serfs, et de plus, dans chacune de ces classes, une hiérarchie particulière. La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. Fin de citation. C'est également une critique radicale et complexe du capitalisme et de son culte de l'argent et de la marchandise. Un capitalisme qui aliène le possédant comme l'exploité. Un capitalisme qui repose sur l'appropriation par le patron de la plus-value créée par chaque travailleur. Un capitalisme qu'il faut abattre et remplacer par un système égalitaire appelé communisme, débarrassé de l'État et de la domination sociale, autrement dit, de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est une critique de la division du travail, notamment avec le machinisme, qui a fait de l'homme un serviteur de la machine et lui a fait perdre le goût du travail bien fait. Le capitalisme crée une classe d'hommes déshumanisés, ces prolétaires, esclaves de la machine, rouages de la production, interchangeables. C'est une critique radicale de l'État, analysée comme une création humaine chargée de défendre les intérêts de la classe dominante. C'est aussi et surtout une doctrine révolutionnaire qui entend renverser le vieux monde. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, dit Marx, il faut désormais le transformer. Le marxisme, c'est cela, et bien d'autres choses encore. C'est pour Marx et Engels un demi-siècle de lutte pour le socialisme, de polémiques souvent féroces avec ceux qui ne pensaient pas comme eux, des centaines de textes, articles, lettres ou livres. Esprit brillant mais autoritaire, manipulateur à l'occasion, Karl Marx fut la plume et le grand orchestrateur de la Première Internationale entre 1864 et le début des années 1870. C'est là qu'il affronta ses plus sérieux adversaires, les anarchistes. Oh, anarchistes et marxistes ont la même ambition, abattre le capitalisme, abolir le salariat, bâtir un monde sans classe ni État. C'est évidemment à propos des moyens à mettre en œuvre qu'ils divergent profondément.
Get your doctor so he can tell me just what to do, because I keep on aching. Yes, I ache both night and day. Yeah, doctor, doctor, please drive this old pneumonia away. I have got the pneumonia, I've got it in both my sides. My friends treat me so bad till I just can't keep from crying. For me, I keep aching. Yes, I ache both night and day. Yeah, doctor, doctor, please drive this old pneumonia away. I have news, big sad. I've news everything my friend said. Now I believe I'll take a hot toddy and go to bed, because I keep on aching. Yes, I ache both night and day. Yeah, doctor, doctor, please drive this old pneumonia away. My friends told my wife they had did all they could. They said put him in a hospital before he ruins the neighborhood. I keep on aching. Yes, I ache both night and day. Yeah, doctor, doctor, please drive this old pneumonia away. The doctor said my fever was 103. The nurse said put him in a private room. That's why I ought to be, because he keeps on aching. Yes, I ache both night and day. Yeah, doctor, doctor, please drive this old pneumonia away.
Au sein de la Première Internationale, celui qui s'affirme comme la principale figure de l'anarchisme est un Russe, un colosse volubile, extraverti, tribun remarquable à l'existence rocambolesque, Michel Bakounine. Bakounine est tout différent de Marx. Alors que le second est un rat de bibliothèque qui passe son temps un crayon à la main, le premier ne tient pas en place. Bakounine a beaucoup écrit, mais ce sont avant tout des articles, des conférences. Tous les projets plus ambitieux, il ne les a pas terminés. Marx a déjà affronté celui qu'on appelle le père de l'anarchie, Pierre-Joseph Proudhon. Il s'était fâché avec le penseur de Besançon quand, dans un échange de courrier, celui-ci lui avait dit « Ne nous posons pas en apôtre d'une nouvelle religion. Cette religion fut-elle la religion de la logique, la religion de la raison ? Accueillons, encourageons toutes les protestations, flétrissons toutes les exclusions, tous les mysticismes. Ne regardons jamais une question comme épuisée. Et quand nous aurons usé jusqu'à notre dernier argument, recommençons s'il faut avec l'éloquence et l'ironie. » À cette condition, j'entrerai avec plaisir dans votre association. Sinon, non. Proudhon reprochait à Marx son sectarisme, son goût pour les intrigues politiques. Bakounine fera de même. Bakounine appréciait Marx comme penseur, il le détestait comme chef de bande. Au centralisme défendu par Marx comme condition d'efficacité pour la Première Internationale, les anarchistes répondaient « fédéralisme et autonomie de chaque section nationale ». La politique ? Les anarchistes la délaissent. Ils ne veulent pas voir les révolutionnaires faire des compromis politiques avec des réformistes ou des républicains. Pour eux, toute participation de la classe ouvrière à la politique bourgeoise gouvernementale ne peut avoir d'autre résultat que la consolidation de l'ordre des choses existants, ce qui paralyserait l'action révolutionnaire socialiste du prolétariat. À l'action politique, ils opposent la constitution fédérative de corps de métier, seul moyen d'assurer le succès de la révolution sociale. Autrement dit, l'organisation en syndicat de la classe ouvrière. À cela, les marxistes répondent « L'abstention politique est funeste par ses conséquences pour notre œuvre commune. Quand nous professons l'intervention politique et les candidatures ouvrières, nous voulons seulement nous servir de cette représentation comme d'un moyen d'agitation qui ne doit pas être négligé dans notre tactique. Nous croyons qu'individuellement, chaque membre doit intervenir autant que faire se peut dans la politique. » Mais les anarchistes ne veulent rien entendre, car ils sont persuadés que le pouvoir corrompt. Dès que des ouvriers seront devenus des gouvernants, ils cesseront d'être des ouvriers et se mettront à regarder le moindre prolétaire du haut de l'État, ne représenteront plus le peuple, mais eux-mêmes et leurs prétentions à le gouverner. La défiance totale des libertaires à l'égard de l'institution étatique est illustrée parfaitement par cette célèbre et lyrique tirade de Proudhon. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu. Être gouverné, c'est être à chaque opération, à chaque transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est sous prétexte d'utilité publique et au nom de l'intérêt général, être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mystifié, volé, puis, à la moindre résistance, au moindre mot, au premier mot de plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi et pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale. Sacré Proudhon. Bakounine se souvient de ce que Marx écrivait dans le manifeste. Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production entre les mains de l'État, c'est-à-dire du prolétariat organisé en classe dominante, et pour augmenter au plus vite la quantité des forces productives. Cela ne pourra naturellement se faire au début que par une violation despotique du droit de propriété et du régime bourgeois de production, c'est-à-dire par des mesures qui, économiquement, paraissent insuffisantes et insoutenables, mais qui, au cours du mouvement, se dépassent elles-mêmes et sont indispensables comme moyen de bouleverser le mode de production tout entier. Les antagonismes des classes une fois disparus dans le cours du développement, toute la production étant concentrée entre les mains des individus associés, alors le pouvoir public perd son caractère politique. Le pouvoir politique à proprement parler est le pouvoir organisé d'une classe pour l'oppression d'une autre. Si le prolétariat, dans sa lutte contre la bourgeoisie, se constitue forcément en classe, s'il s'érige par une révolution en classe dominante et comme classe dominante détruit par la violence l'ancien régime de production, il détruit en même temps que ce régime de production les conditions de l'antagonisme de classe. Il détruit les classes en général et par là même sa propre domination comme classe. À la place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classe, surgit une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. De cet état rouge, de cette dictature sur le prolétariat, qui semble être la dictature d'une sorte d'avant-garde, Bakounine n'en veut pas. Comme Marx, il est un partisan convaincu de l'égalité économique, mais cette égalité, il la veut dans la liberté. Les marxistes affirment que seule la dictature, la leur évidemment, peut créer la volonté du peuple. Nous leur répondrons « Aucune dictature ne saurait engendrer et développer dans le peuple qui la supporte autre chose que l'esclavage. La liberté ne peut être créée que par la liberté. » Au congrès de La Haye de la Première Internationale en 1872, c'est la scission. Après des mois d'intrigues, de coups bas, de règlements de comptes, les sections de l'internationale dominées par les libertaires sont exclues. Dorénavant,
socialistes et anarchistes, vont faire bande à part. Voilà, c'était Nouvelle Donne Vieille Rengaine. À bientôt sur Alternante FM.